meeting que vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Nicolas Benita à la réalisation pour nous demander jusqu'où sommes-nous en train de nous métamorphoser en Homo sapiens informaticus. Comment le numérique nous transforme et transforme nos vies, nos manières de travailler, d'apprendre, de voter, d'aimer et de concevoir notre corps, nos vies en société et même la mort. Pourquoi ça change tout? Comment vivre dans un monde de trolls et de bitcoins, d'écrans de fumée et d'objets connectés qui n'oublient rien de ce que nous faisons? Comment faire pour reprendre la main et devenir acteur de tous ces bouleversements en toute connaissance de cause? Interrogation et piste de réflexion de notre invité, l'informaticien et philosophe Gilles De Weck, autour de la question comment vivre, travailler, aimer et voter en ligne. Bienvenue dans notre ère numérique. Bonjour Gilles De Weck.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes informaticien, directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, professeur associé à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Vous êtes également philosophe et passeur de sciences, auteur des Métamorphoses du Calcul, prix de philosophie de l'Académie des Sciences, mais aussi du Temps des Algorithmes, coécrit avec l'informaticien Serge Habitboul aux éditions du Pommier, qui viennent de publier Vivre, aimer, voter en ligne et autres chroniques numériques, le recueil des chroniques que vous écrivez, Gilles De Weck, chaque mois dans le magazine Pour la Science, dans la rubrique Homo sapiens informaticus. Sommes-nous en train de nous métamorphoser en Homo sapiens informaticus ou numéricus, Gilles De Weck?
Oui, effectivement, je crois que chacun de nous remarque les transformations du monde autour de lui, mais également les transformations de ce que nous sommes, c'est-à-dire le rapport que nous avons à notre corps, la manière dont nous concevons notre humanité, sont transformés par cette révolution informatique. Et donc, quand il a fallu choisir un nom pour cette chronique, alors c'était compliqué parce qu'il fallait que je choisisse un nom pour une chronique dont j'avais pas encore écrit le premier numéro, je m'étais dit qu'il y avait cette idée d'une transformation de l'homme, donc je me suis dit je vais essayer de faire après Homo sapiens que ce qu'il va y avoir, et puis en y réfléchissant à deux fois je me suis dit non, au contraire, finalement ce qui est important dans ce monde c'est la sagesse, c'est de garder la sagesse, et donc plutôt que de devenir Homo informaticus, essayons de devenir Homo sapiens informaticus.
Oui, tous les termes sont importants hein, là-dedans, et surtout le sapiens, et vous nous dites au fond à travers toutes ces chroniques qu'il nous faut quoi, à la fois prendre la mesure de ce qui se passe, de tous ces bouleversements, et nous préparer à y participer en fait, pas les subir.
Oui, la révolution informatique n'est pas une météorite qui tombe du ciel, et ce n'est pas un événement qui nous arrive. Comme la plupart des transformations techniques du monde, ce sont des transformations qui sont initiées par nous. Alors bien entendu, il faut comprendre
vous êtes informaticien, mais...
Quand je dis nous l'humanité, donc c'est un changement assez global. D'ailleurs, les informaticiens, bien sûr, jouent un rôle important dans cette transformation, mais pas uniquement, chaque personne peut y participer. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, dans notre 21e siècle, c'est vraiment que chaque humain participe à cette transformation et qu'aucun humain ne la subisse.
Autour de la question pourquoi et comment nous métamorphosons-nous en Homo sapiens informaticus et comment participer justement à cette transformation, à cette métamorphose, on commence par une plongée en apnée dans notre ère numérique. C'est le mix connecté et complètement déconnecté de Nicolas Benita.
Pique, vas-y.
Connectez-vous Internet.
Tu cliques parce que moi je sais pas faire soi-disant. Alors vas-y,
contrôle-moi.
On considère aujourd'hui qu'on est tous des homo numericus.
Bien, connexion.
Ça va trop vite la technologie, attends, ça va super vite. Moi je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Je croyais que j'étais dans la vibe, aucun rapport, laisse tomber. SMS ça va, MMS ça va, MSN ça va, MNM ça va, mais...
Le nomo-numérique.
L'homo-numérique.
En rapport avec l'homme et puis le numérique, du coup.
Au bout d'un moment, je pense même que tout le monde sera obligé de savoir faire un peu d'informatique, d'avoir les bases.
Tu peux aussi échanger, tu peux séduire, tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie, tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à trois points de suspension.
Je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus, que ce soit les petits, les grands, et je trouve ça un peu malheureux. Moi, je trouve que c'est bien d'aller dehors, se promener, jouer, plutôt que d'être devant des écrans toute la journée. Voilà.
Moi, je suis un malade du téléphone. Alors, t'es là, tu regardes tes messages et tout. Moi,
ouais, le tout connecté me fait un peu peur.
J'accède directement aux infos clés, je passe mes ordres en un clic, où et quand je veux. Vous l'aurez compris, j'aime ma banque.
T'as ce que tu veux, hein, des journaux, des radios, des services, des jeux, ce que tu veux.
Le smartphone, c'est devenu le prolongement de notre main. On l'a tout le temps dans les mains, on veut prendre des photos tout le temps, on veut les mettre sur les réseaux sociaux, on veut que les gens like, hein, on veut des j'aime, c'est un truc, on veut des j'aime, aime, allez, aime-moi, aime ma vie, aime.
Tu ne sais pas cliquer avec un doigt, comme ça là.
Tu sais ce que c'est qu'un email.
Gilles de Wack, voulez-vous réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, il y avait beaucoup de choses qui appellent une réaction. Alors, peut-être la première chose qu'on a entendue, c'était une réaction de peur, c'est-à-dire une réaction de peur, d'inquiétude. Mmh. Je ne sais pas, quelqu'un disait dans ce mix, les gens passent leur temps devant des écrans ou cette transformation nous fait peur, mmh, etc. Et il y a dans le même mix, il y a l'explication de la raison pour laquelle les gens ont peur, puisque il y a aussi eu un constat d'ignorance. Il y a des gens qui disent on n'y comprend rien, etc. Et donc effectivement, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire il suffit de ignorer pour avoir peur. C'est deux choses qui sont très très liées.
Voilà pourquoi il faudrait peut-être commencer par comprendre et donc par apprendre, Gilles de Wack, car l'informatique et le numérique transforment aussi nos apprentissages, hein, pour le meilleur comme pour le pire. Votre premier chapitre de ces chroniques numériques s'intéresse au MOOC. Vous dites arme de destruction massive du savoir et de l'université pour certains, mais aussi et surtout formidable, notamment pour nos auditeurs, hein, qui sont loin et qui peuvent ainsi avoir accès à toutes les grandes universités.
Oui, alors dans ces chroniques là qui s'étalent sur 3 ans et demi, j'ai beaucoup parlé d'éducation. Alors d'abord, tous les mois de septembre, je fais ma rentrée dans cette chronique, donc j'essaye de faire un peu le bilan sur l'enseignement de l'informatique en France, qui est quelque chose qui se développe, mais très doucement, à un rythme très... C'est surprenant qu'on arrive à développer quelque chose de manière aussi lente. Ça fait des années qu'on est en train
de développer.
Alors
que vous défendez, hein, cet enseignement de la science informatique.
Voilà, donc on essaye, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, c'était en 2005, donc c'est maintenant il y a 13 ans, et j'avais l'impression qu'on allait faire quelques propositions au ministre, puis que 6 mois après, l'affaire serait réglée, puis on est 13 ans après. Et en gros, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 batailles à gagner, on en a gagné 2, il en reste 2 à gagner. Donc on est peut-être juste à la moitié du processus. Et l'idée essentielle, c'est que pour que tous les êtres humains puissent se saisir de cette transformation, pour qu'ils cessent d'avoir peur, pour qu'ils, au contraire, qu'ils la mènent dans la direction qui est leur choix, qui est leur désir, il est important qu'ils comprennent, non pas juste apprendre à se servir d'objets, mais qu'ils comprennent fondamentalement quels sont les concepts, quelles sont les idées, etc.
Soulever le capot de l'ordinateur.
Voilà, soulever le capot de l'ordinateur, soulever le capot des concepts, et il y a tout un tas de méthodes pédagogiques qui permettent d'enseigner l'informatique sans ordinateur. L'informatique n'est pas la science des ordinateurs. Nous avons la chance en français d'avoir un mot qui dit informatique qui n'est pas qui n'est pas la traduction de science des ordinateurs. Et donc, un enseignement d'informatique, c'est celui que nous proposons, mais celui que propose à peu près tout le monde sur la planète, c'est de structurer cet enseignement autour de 4 grands concepts, qui sont les concepts de l'informatique, donc le concept de machine, d'ordinateur bien entendu, mais aussi de réseau, etc. Le concept d'algorithme, le concept d'information et le concept de langage. Et donc ça va bien au-delà de l'apprentissage de la programmation, de l'apprentissage du code, etc., qui sont des choses importantes. Mais il faut aller au-delà. Et donc j'ai essayé, dans certaines chroniques, de rappeler à quel point c'était important pour vivre au XXIe siècle. C'est une forme d'alphabétisation, en fait. Il y a encore une partie importante de la population mondiale et de la population française, d'ailleurs, qui n'est pas très, très bien lotie de ce point de vue-là, d'illettrés, voire d'analphabètes. Et donc c'est vraiment important pour la société d'aller dans cette direction.
De comprendre, enfin, et d'avoir les clés pour comprendre cette pensée informatique, algorithmique. Vous avez une de vos chroniques joliment intitulée « Comment reconnaître un informaticien dans un dîner en ville ?» Mais en fait, c'est pour effectivement arriver à comprendre comment on reconnaît un informaticien dans un dîner en ville, un informaticien comme vous, Gilles de Wack.
Donc, moi, je propose un algorithme pour détecter un informaticien dans un dîner en ville. Et cet algorithme, c'est de lui poser une question. Alors, la question que j'utilise dans la chronique, c'est de demander à la personne qui se trouve en face de vous dans un dîner en ville si elle sait comment on détecte un cercle rouge dans une image. En fait, j'ai écrit cette chronique en 2014 et aujourd'hui, cette idée est devenue très, très commune, mais c'est pas le cercle rouge qui a gagné, c'est comment est-ce qu'on différencie un chien d'un chat. Donc c'est maintenant la manière dont on pose la question. Et ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a une manière très spécifique de penser des informaticiens, et ça c'est pas tout à fait surprenant. À chaque fois qu'il y a eu une révolution scientifique, il y a eu une manière différente de penser. Si vous pensez à la grande révolution scientifique du XVIIe siècle, Galilée, etc., il y a une manière très différente de penser des savants du Moyen-Âge. Pour les savants du Moyen-Âge, tout venait de leur tête et tout venait des anciens. Et à partir de Galilée, il y a quelque chose de nouveau qui est, il y a des informations, il y a des connaissances qui nous viennent de l'expérience. Et donc, il y a de la même manière, au XXIe siècle, au XXe siècle, de nouvelles manières de penser qui sont arrivées avec l'informatique. Et donc, quand vous posez à une personne normale la question, est-ce que vous savez comment on reconnaît un cercle rouge dans une image ?
Ou un chat d'un chien ?
Ou un chat d'un chien, la personne va vous dire, bah oui, il suffit de regarder. Mais en fait, pour un informaticien, que signifie cette question ? Cette question signifie, est-ce que vous connaissez un algorithme qui permet de distinguer la photo d'un chat de la photo d'un chien, ou qui permet de distinguer une image qui contient un cercle rouge d'une image qui n'en contient pas ? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer qu'on est à la place d'un ordinateur et qu'on doit faire une suite d'opérations qui nous permettent de distinguer une image de l'autre. Et ça, ce que nous prenons conscience ici, qu'il y a énormément de choses que nous savons faire, mais nous ne savons pas comment nous les faisons. Nous savons, en regardant une image, si c'est un chat ou si c'est un chien, mais que ce qui se passe dans notre cerveau, ça, nous n'en savons rien. Et la pensée informatique, c'est beaucoup l'exploration de ces processus par lesquels nous sommes capables de distinguer un chat d'un chien.
Pour les transmettre à une machine, il faut déjà savoir comment elle se déroule dans notre cerveau.
Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans... face au problème de reconnaître un chat d'un chien, mais d'expliquer à une machine comment faire, ou d'expliquer à un martien qui n'aura jamais vu un chat et un chien comment on fait pour les distinguer. Et donc, si vous trouvez dans un dîner en ville, Caroline, en face d'un informaticien, il vous répondra, je ne sais pas, c'est un problème extrêmement difficile de reconnaître un chat d'un chien.
Autour de la question comment nous métamorphosons-nous, pas en informaticien, mais en homo sapiens informaticus, nous sommes tout ouïes sur RFI, à l'écoute de Fekir, révélation française de la scène électro. Sur RFI, on écoute Animal.
Autour de la question.
L'animal Fekir sur RFI autour de la question comment vivre, aimer, travailler, apprendre et voter en ligne. En compagnie de l'informaticien et philosophe Gilles Dowek, nous préparons notre métamorphose en homo sapiens informaticus avec une nouvelle question pour vous Gilles Dowek, soulevée par Alan Aboudib, jeune post-doctorant en informatique au Collège de France. Il est originaire de Syrie et fidèle auditeur d'autour de la question.
Comment utiliser la technologie d'aujourd'hui, par exemple le blockchain, pour éviter le danger que ça peut poser le stockage de nos données dans les serveurs des réseaux sociaux ?
Que pouvez-vous répondre à cette question qui soulève plusieurs lièvres ?
Oui, c'est une question complexe. Alors, d'abord, quel est le danger des réseaux sociaux ? Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, sans doute à juste titre, il y a une focalisation dans un discours critique face à la révolution informatique sur les réseaux sociaux. Et il pourrait y avoir un discours critique sur d'autres aspects de l'informatique, mais apparemment, c'est les réseaux sociaux qui focalisent cette critique. Et il y a effectivement un problème avec les réseaux sociaux, c'est que les informations qui sont données, qui sont communiquées par des milliards d'individus, se retrouvent sur le même serveur. C'est-à-dire, vous avez un ordinateur, qu'on appelle un serveur, et sur un serveur, vous pouvez mettre des milliers, des millions de photos, des milliers, des millions d'informations, de pièces de musique, etc. Et donc, il y a une concentration de l'information qui, paradoxalement, est permise par Internet, alors qu'Internet a été inventé pour déconcentrer l'information.
On est dans un paradoxe.
Dans les années 60, les premiers travaux qui ont mené à Internet en 1969 nous disent précisément qu'il faut éviter d'avoir des serveurs, des endroits, des machines qui jouent un rôle central dans un réseau informatique. Et il faut au contraire voir un réseau informatique comme une espèce de mousse auquel on peut tout le temps rajouter des ordinateurs, auquel qu'on peut tout le temps reconfigurer sans que ça change son fonctionnement. Donc on est au départ dans une idée de décentralisation complète et absolue, et Internet fonctionne toujours comme ça. Mais Internet a permis aux réseaux sociaux de se développer, et les réseaux sociaux, eux, sont la plupart du temps dans une idée complètement inverse, qui est une idée de centralisation, de centralisation d'information.
Alors, ce et de vrai, nos informations et de nos données personnelles.
De nos données personnelles. Et donc il y a aujourd'hui une réflexion qui est menée par des informaticiens, mais aussi d'autres personnes, des usagers des réseaux sociaux par exemple, sur une manière de, à nouveau, déconcentrer les informations qui sont concentrées principalement par les réseaux sociaux, mais aussi par les boutiques en ligne par exemple, qui se souviennent 10 ans après de l'ensemble des objets que vous avez achetés dans les 10 années qui sont
écoulées. Et les ordinateurs n'oublient rien. Enfin,
les ordinateurs n'oublient rien,
ils
sont hypermnésiques, et donc c'est une vraie question. Et effectivement, il y a un certain nombre de technologies comme la
technologie... Pour sécuriser, en fait, ces technologies comme les blockchains, c'est quoi? C'est pour sécuriser toutes ces données personnelles qui circulent?
Il y a deux idées qui sont les deux importantes, mais qui sont un peu différentes. Il y en a une, c'est de décentraliser, le fait que l'information ne soit pas stockée toute au même endroit, toute l'information sur toute l'humanité soit stockée au même endroit. Et on retrouve cette idée de distribution, de décentralisation des algorithmes et des bases de données comme blockchain qui a été mentionné dans la question.
Chaîne de blocs
Chaîne de blocs, oui. Enfin, excusez-moi, d'habitude je dis les chaînes de blocs, personne ne comprend de quoi il s'agit, mais c'est le mot anglais malheureusement qui s'est imposé.
Pas plus compréhensible en anglais qu'en français pour nous.
Oui, alors c'est pas quelque chose de très compliqué. La chaîne de blocs, c'est un moyen de tenir un registre. Donc vous voyez ce qu'est un registre, imaginez un registre chez un notaire, et vous vendez un appartement, vous achetez un appartement, vous vendez un appartement pour en acheter un autre, vous achetez une maison pour vendre un appartement, vous vendez une maison pour acheter un appartement. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse retrouver cette information 25 ans plus tard, quand vous voulez revendre l'appartement que vous avez acheté. Il est important que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il est à vous au moment où vous le vendez, sinon vous n'avez pas le droit de le vendre. Et donc aujourd'hui, on tient des grands registres, qu'on appelle dans le cas des notaires, le registre des hypothèques, où on marque qui a acheté quel appartement, quelle maison, à qui. Et l'idée de la chaîne de blocs, c'est de pouvoir tenir des registres comme celui des notaires, de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire sans qu'il y ait une autorité centrale.
Qui récupère, qui centralise toutes ces informations.
Qui centralise cette information. Et ce n'est pas très compliqué de comprendre comment faire. Il suffit qu'au lieu que, quand vous signez un acte de vente, le notaire communique cette information à un registre central, qui est le registre des hypothèques, il suffit qu'il le communique à tous les autres notaires. Et donc vous voyez que l'information circule d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus décentralisée.
Donc il y aurait des moyens pour redécentraliser
voilà,
le net.
Voilà, exactement. Et donc cet objectif de redécentraliser le web et les réseaux sociaux est vraiment un objectif important aujourd'hui dont il faut que nous nous saisissions collectivement. C'est pas juste les informaticiens qui vont faire ça, et c'est encore moins les entreprises qui aujourd'hui profitent essentiellement de cette centralisation.
Autour de la question comment et jusqu'où nous métamorphosons-nous en Homo sapiens numericus, on continue de s'interroger avec SciSci sur RFI Computer Love.
Yeah, c'est un coup. vie en Asie, à lui à Belfast. Relation strictement interface. Trop loin pour se voir enchérir en noce. Ils ont quand même projeté de faire des gosses. Il imagine qu'elle est belle, elle pense qu'il a l'argent. Je me demande s'ils se connaissent vraiment.
Petite annonce, boîte aux lettres, Minitel. Rendez-vous donné dans des mondes virtuels. Substitution, capteur sensoriel. Créature de rêve au septième logiciel.
Ils s'aiment sur le modem. Sur le modem. Ils s'aiment réalité virtuelle. Nouveauté rituelle dans ton email. Ils s'aiment sur le modem. Sur le modem, il sème réalité virtuelle, nouveauté rituelle dans ton humeur.
Daisy Jane, la lady digitale, derrière son ordi charge son disque optical.
Le GSM connecté au terminal, échange de données agréable en sérial.
Chercher à sauver le bonheur sur CD-ROM, chip and Alice pour les femmes, top model pour les hommes.
Juste un échantillon de présence. Les voilà partis en cycle séquence.
J'ai grillé ma voisine sur internet, en train de rêver en 3D sans porter de lunettes.
Elle était sur son mobile, histoire de tirer un coup de fil. Il a sa peau.
Il s'aime sur le modem. Sur le modem.
Il s'aime réalité virtuelle, nouveauté rituelle dans ton email.
Sur le modem.
Sur le modem.
Il s'aime réalité virtuelle, nouveauté rituelle dans ton email.
Toutes les générations vivaient sur les écrans qui reflètent dans les yeux un manque évident. Personne ne communique vraiment. Le modem est branché sur tous les continents. Stockons les données dans toutes les mémoires. Permettra à tous et toutes la survie du savoir.
On ne demande qu'à voir.
L'ordinateur reste à la maison et ne pose jamais de questions.
Non, non, non. Il s'aime sur le modem.
Sur le modem.
Il s'aime réalité virtuelle, nouveauté rituelle dans ton email. Sur le modem. Sur le modem.
Il s'aime réalité virtuelle, nouveauté rituelle dans ton email.
Du monde. Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Computer Love, Sci Sci sur RFI, autour de la question comment aimer, vivre, travailler et voter à l'ère numérique. En compagnie de l'informaticien et philosophe Gilles Dewecq, nous nous interrogeons sur notre métamorphose en Homo sapiens informaticus, en nous demandant jusqu'où ces bouleversements vont nous entraîner individuellement et collectivement. C'est Antoine Petit, l'ancien président d'INRIA, votre institut de recherche, Gilles Dewecq, aujourd'hui nommé à la tête du CNRS, qui s'interroge sur notre démocratie à l'ère du vote en ligne.
Organiser un vote, avant c'était quand même compliqué, il faut des isoloirs, il faut des bureaux de vote, il faut que les gens se déplacent. Aujourd'hui, avec le numérique, on devrait pouvoir organiser des votes beaucoup plus facilement. Donc finalement, est-ce que ça ne devrait pas révolutionner la démocratie, le numérique, plus que ça ne le fait aujourd'hui ?
Votre réponse, Gilles Dewecq, est-ce que le numérique ne devrait pas révolutionner la démocratie ?
Oui, alors c'est un sujet auquel j'avais consacré une chronique, donc je remercie Antoine d'avoir posé une question qui est pile dans le sujet. Dans cette chronique, je fais d'abord un petit calcul. Et j'imagine que nous organisons une élection tous les 5 ans, comme c'est à peu près le cas, alors c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça dépend des pays, pour élire un président de la République. Et pour simplifier les calculs, j'ai supposé qu'il y avait 32 candidats, parce que 32, c'est 2 à la puissance 5. Et donc, quand nous élisons un candidat parmi 32, nous communiquons, par notre choix, nous communiquons une quantité d'informations qui est de 5 bits. Et donc nous communiquons une quantité d'informations qui est de 5 bits tous les 5 ans. Et en faisant une petite division, on s'aperçoit que le débit d'informations que le vote à l'urne nous permet est de 1 bit par an. Alors en général, on ne compte pas les débits d'informations en bits par an, on les compte plutôt en bits par seconde. Et donc j'ai à nouveau fait le calcul pour vous. Mmh. 1 bit par an, c'est de l'ordre de 1/10 millionième de bits par seconde. Et pour juste avoir un ordre de grandeur, le modem que vous avez chez vous, la box, en fonction des, bien sûr, ça dépend des pays, etc. Mais en gros, on est plutôt dans l'ordre de 10 millions de bits par seconde. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a 100 000 milliards de différence. La box va 100 000 milliards de fois plus vite que le vote à l'urne. Et donc, on peut en une seconde, ou en un an, ou en cinq ans, transmettre 100 000 milliards de fois l'information qu'on transmet avec le vote à l'urne.
Donc ça paraît bien plus efficace, sauf que...
Ça paraît bien plus efficace, et d'abord, il faut comprendre pourquoi on a quand même le vote à l'urne, parce que quand on a inventé ce système, alors en gros, on va dire à la fin du XVIIIe siècle, enfin, au moment de la Révolution, enfin, il y avait quelques idées avec Montesquieu avant, etc., on va dire à la Révolution anglaise, si vous voulez, donc fin du XVIIe siècle, eh bien, à cette époque, c'était déjà très compliqué, c'est-à-dire avoir un tel débit d'information que chaque citoyen puisse mettre de l'information en direction des autres citoyens, de la collectivité, était quelque chose de très compliqué, et on avait réussi à une prouesse technique avec le vote à l'urne d'arriver à ce niveau de débit. Bon, mais aujourd'hui, on peut aller 100 000 milliards de fois plus vite, et donc on peut se poser la question, comment est-ce que ça va transformer la démocratie ? Et il y a là-dessus une première idée, qui est de dire, on va remplacer le vote à l'urne par le vote électronique. Mais c'est ce que j'appelle dans une autre chronique que j'avais consacrée au vote électronique, qui a donné un peu son titre à l'ouvrage, au recueil. J'avais mentionné un résultat qui a été prouvé par des collègues à moi en 2006, qui est un résultat relativement récent, qui montre que le vote électronique ne peut jamais être aussi fiable que le vote à l'urne.
Pour des raisons quoi, de fiabilité, alors, de sécurité, de fiabilité.
C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un protocole de vote électronique qui garantisse deux propriétés qui pourtant nous semblent absolument indispensables. La première, c'est le secret du vote. Et la deuxième, c'est la possibilité de recompter les voix. Et donc, quand vous avez une élection, il faut que chacun puisse dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection. » Et donc, on regarde les bulletins qu'il y avait dans l'urne et on peut les recompter. Et donc ça, c'est vraiment très important.
Et avec un vote électronique ?
Et avec un vote électronique, on ne peut pas, de manière absolue, avoir les deux propriétés à la fois. Et donc ça m'amène à être plutôt sceptique sur le vote électronique comme remplacement du vote à l'urne, et de dire, après tout, aujourd'hui, nous élisons et nous arrivons assez bien à élire le président de la République et les députés et les maires des villes en nous déplaçant. Donc pourquoi ne pas continuer comme ça ? C'est finalement mieux. Mais cela dit, ça c'est une forme de paresse intellectuelle de raisonner comme ça, puisque nous raisonnons en disant, nous avons un système politique qui est celui où nous devons élire en gros un président de région et un maire, et essayons de penser dans le cadre ancien, avec les outils nouveaux. Et plutôt, j'ai essayé de poser une autre question qui est, maintenant, quelles sont toutes les décisions que nous prenons, et qui sont prises plutôt, et pour lesquelles nous ne sommes pas consultés ? Et donc, par exemple, en ce moment, dans la rue où j'habite, on est en train de refaire le trottoir. Il y a quelqu'un qui a pris la décision qu'il fallait refaire le trottoir de gauche, mais pas le trottoir de droite. Et est-ce qu'on ne pourrait pas associer les citoyens à ce type de décision ?
C'est-à-dire que vous dites, il faut prendre la démarche à l'inverse. Ce qui fonctionne, on peut le laisser comme
exactement.
Ça. Mais en revanche, nos nouveaux outils numériques, électroniques,
nous permettent d'inventer une nouvelle démocratie. Ce n'est pas l'ancienne démocratie qu'il faut faire fonctionner avec de nouveaux outils. L'ancienne démocratie, elle vient avec ces outils qui fonctionnent. Donc il n'y a aucune raison de les changer. En revanche...
Surtout qu'on ne pourrait pas assurer la fiabilité, le secret...
Voilà, exactement. Surtout que ça poserait des problèmes. En revanche, il y a tout un tas de décisions que nous prenons, qui sont prises plutôt, sans que nous les prenions nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est cet exemple de refaire les trottoirs, refaire la voirie, etc. Mais on peut aller un peu plus loin. Et on s'aperçoit que, du fait du très faible débit d'information, d'information qu'il y avait au XVIIIe siècle quand on a inventé le vote à l'urne, on vote d'une manière un peu absurde, où quand nous élisons le président de la République, un député, un maire, nous répondons simultanément à plusieurs questions. C'est-à-dire nous répondons à la question quelle est la politique que nous voulons en matière militaire, quelle est la politique que nous voulons en matière de justice, quelle est la politique que nous voulons en matière de police, quelle est la politique que nous voulons en matière d'éducation, en matière de santé, en matière économique, etc. Et pour ça, nous n'avons que des réponses stéréotypées avec les deux grands stéréotypes, la gauche, la droite. Et le fait d'avoir un plus grand débit d'informations pourrait nous amener à répondre différemment et à des moments différents à des questions différentes. Puisqu'il n'y a pas de raison...
À donner notre point de vue sur tout ce qui nous intéresse vraiment.
Sur tout ce qui nous intéresse vraiment, parce qu'il n'y a pas de raison que votre vision, ce que vous souhaitez pour, mettons, les questions de police, soit corrélée avec ce que vous souhaitez pour les questions d'éducation. Vous pouvez très bien, sur les questions d'éducation, avoir une opinion qui vous rapproche de la mienne, par exemple, mais sur les questions de police, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et du coup, est-ce que nous devrions voter pour le même candidat ou non ? Cette question n'a aucun sens. Et elle vient uniquement du fait qu'à une certaine époque, nous n'avions pas la possibilité d'échanger suffisamment d'informations.
Mais est-ce qu'on serait capable de les traiter, toutes ces informations, aujourd'hui ?
Alors, ça dépend. Aussi, une autre question. Si nous, chaque citoyen exprime 100 000 milliards de fois plus de choses que ce qu'il exprime, non. Mais par exemple, une solution de science-fiction que je propose uniquement pour amener le lecteur à réfléchir, c'est que nous élisions 6 présidents de la République. En gros, l'État, on peut identifier 6 grandes fonctions qui sont d'un côté l'armée et la diplomatie, de l'autre côté la police, la justice, l'éducation, la santé, l'économie. Bon, c'est vraiment à très gros traits. Et on pourrait tous les ans élire un président. Donc une année, on élirait le président de l'éducation. L'année d'après, on élirait le président de la santé. Et ces élections, donc là, qui devraient être électroniques, parce que là, on commence à arriver à un débit d'informations extrêmement, enfin, bon, plus important, pas extrêmement important, mais plus important. Et à ce moment-là, pendant un an, on pourrait discuter réellement des questions d'éducation. Et pendant un an, on pourrait discuter réellement des politiques, des questions de politique de santé. Puis pendant un an, on pourrait discuter des questions de politique militaire. Et aujourd'hui, dans une élection, il y a une cacophonie où on discute de toutes ces questions à la fois. Et d'un certain point de vue, on peut expliquer la relative désaffection des citoyens pour le débat public, parce que toutes ces questions sont mélangées, alors que les citoyens ont l'habitude, parce que eux vivent déjà dans un monde où ils utilisent divers moyens de communication pour discuter de différents sujets.
Disons,
les citoyens vivent déjà dans un monde différent, alors que nos institutions appartiennent à un monde plus ancien.
Comment justement appartenir tous au monde que nous sommes en train de créer au sujet de nos démocraties numériques et des élections en ligne pour les homo sapiens numericus que vous appelez de vos voeux, Gilles de Wac? Une nouvelle question soulevée par Cédric Villani, que vous connaissez bien, le célèbre mathématicien, aujourd'hui député en marche des Yvelines et chargé par le gouvernement d'un rapport sur l'intelligence artificielle. On l'écoute.
Certes, vivre et aimer sont des thèmes que l'on associe tout naturellement à la nature humaine. En revanche, voter, c'est à la fois un acte humain et un acte qu'on aimerait bien dématérialiser ou rendre électronique. Gilles, à quelle échéance on peut imaginer que nos élections présidentielles se dérouleront par vote électronique? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça viendra avec des règles de sécurité? Quand est-ce que ça viendra avec des règles de sécurité suffisantes? Est-ce que le débat démocratique y gagnera parce qu'il y aura plus d'inclusion de personnes qui pourront voter sans se déplacer? Ou est-ce qu'il y perdra parce qu'il n'y aura pas ces moments, par exemple, où on se retrouve les jours d'élection à discuter dans les bureaux de vote et ainsi de suite? Et parce qu'il y aura moins d'engagement physique? Quel est ton avis sur cette question ?
Quel est votre avis, Gilles de Wac ? Vous pourrez répondre à Cédric Villani, notamment sur la deuxième partie de sa question, hein, finalement sur le lien avec le corps physique. Est-ce que l'isoloir est plus démocratique que le vote en ligne ?
Donc sur l'engagement physique, c'est-à-dire le fait de se déplacer pour aller voter, je ne crois pas que ça ait une si grande importance. Il y a énormément de choses que nous faisions en nous déplaçant. Par exemple, rappelez-vous, peut-être au XXe siècle, certains des auditeurs, certains d'entre nous se sont déplacés pour aller acheter un billet de train. ils sont allés à la gare et ils ont acheté un billet de train à la gare. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu l'habitude de faire, et on s'aperçoit que acheter un billet de train ou un billet d'avion depuis chez soi, c'est beaucoup mieux. Donc je ne crois pas à cette dimension symbolique du corps qui se déplace dans l'isoloir pour aller voter. Je crois que s'il y a des méthodes plus économes,
en même temps il y a quand même tout un cérémonial autour du vote. Enfin là en l'occurrence, on peut parler du corps en général qui va oui. faire quelque chose. Il y a si on fait ça de chez soi devant son ordinateur ou sur son petit
oui,
smartphone, ça peut avoir moins d'impact quand même.
Mais je suis pas sûr de ça. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ce cérémonial ne soit pas une construction culturelle propre à un certain état de la démocratie, qui était celui de cette période très bizarre, qui va du XVIIIe siècle au XXe siècle. On ne comprend pas très bien ce qui se passe à cette époque. Et on est maintenant, disons, dans une époque beaucoup plus simple. En revanche, la question que pose Cédric Villani, et qui, à mon sens, est la vraie question, c'est celle de la sécurité et de la fiabilité du vote électronique. Donc moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis relativement sceptique sur l'idée que remplacer le vote à l'urne par le vote électronique soit une bonne idée. En revanche, je reste convaincu que l'idée de créer de nouveaux votes, de nouvelles élections grâce au vote électronique nous donne un regain de démocratie.
Alors, je veux bien revenir quand même sur le corps, parce qu'un de vos chroniques et plusieurs même s'intéressent à cette question. Quand le corps devient réseau, le corps aujourd'hui, c'est compliqué justement dans cette révolution, dans cette ère numérique. À la fois, il est présent, mais il n'est plus présent du tout, ou en tout cas, il s'équipe d'outils numériques. C'est quoi la place du corps dans une ère numérique, de notre corps humain, Gilles Dewec ?
Alors, effectivement, c'est un sujet auquel j'ai essayé de consacrer plusieurs chroniques, mais c'est un sujet auquel, en gros, je comprends rien. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien et on ne comprend pas très bien toutes les transformations qu'il y a dans notre corps lui-même et dans la perception que nous avons de notre corps du fait de la révolution informatique. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que nous avons de plus en plus de prothèses. Et alors, quand je dis que nous avons de plus en plus de prothèses, il faut le prendre à la fois au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire, nous avons des personnes qui sont handicapées ou qui sont amputées et auxquelles nous sommes aujourd'hui capables de greffer des prothèses et des prothèses informatisées, des prothèses électroniques qui fonctionnent beaucoup mieux que les anciennes prothèses. Donc, par exemple, il y a des handicapés qui aujourd'hui ont un bras robot qui supplée leur bras et elles peuvent commander ce bras robot par la pensée. Et donc, on a pour ces personnes quelque chose qu'on peut considérer d'extraordinaire. Après, c'est à elles de dire que c'est extraordinaire. C'est bien sûr pas aux informaticiens de dire « Regardez, comme le monde est extraordinaire grâce à nous. » Mais enfin, bon, un certain nombre d'entre elles, en tout cas, trouvent ça extraordinaire, même si c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, c'est, par exemple, extrêmement fatigant, apparemment. C'est ce que disent les handicapés. C'est extrêmement fatigant
de commander
un bras artificiel. Ça demande un effort cérébral beaucoup plus grand que voilà, donc il faut qu'on progresse encore là-dessus. Mais il faut mettre sur le même plan que ça le fait que nous sommes tous handicapés et nous avons tous besoin de prothèses.
Nous avons des lunettes tous les deux, Gilles Dewec, dans ce studio.
Par exemple des lunettes, mais enfin il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de lunettes. En revanche, il n'y a personne ou peut-être un tout petit nombre de personnes qui est capable d'apprendre par cœur l'Iliade et l'Odyssée. Ce qui était pourtant, à une certaine époque, la norme. Il y avait des gens qui... Enfin, l'Iliade et l'Odyssée ont été transmises de cette manière pendant des années. Si je vous lis une liste de 1000 mots et que je vous demande de la répéter, je pense que vous aurez une certaine difficulté à avoir mémorisé les 1000 mots.
Donc notre mémoire, aujourd'hui, nous l'externalisons.
Donc nous l'externalisons en ayant des prothèses qui sont d'abord des bibliothèques. Donc il faut avoir conscience du fait que ce n'est pas un processus tout à fait nouveau, puisque dès que nous avons eu l'écriture, les bibliothèques, etc. Et nous avons une externalisation de la mémoire, mais aujourd'hui, une beaucoup plus grande externalisation. Par exemple, moi j'ai oublié tout un tas de formules mathématiques que je retrouve dans Wikipédia quand j'en ai besoin. Et pourtant, une part importante de mon éducation, ça a été de les apprendre par cœur.
Voilà. Donc nous ne nous chargeons pas de ce dont nous n'avons pas besoin pour le moment. Nous savons que nous pouvons le retrouver quand nous voulons.
Nous savons que nous pouvons le retrouver. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la page Wikipédia, où il y a les formules de trigonométrie, que j'ai fini par oublier, dont je me souviens en gros, mais je me souviens plus très bien, et mon cerveau, le cerveau qui est à l'intérieur de la boîte crânienne, forme finalement une espèce de grand cerveau qui est mis en silicium, mis en neurones, à moitié en silicium, à moitié en chair humide que sont les neurones.
Et c'est déjà le cas.
Et c'est déjà le cas. Et donc, nous ne pouvons plus penser à notre corps comme ayant des limites tout à fait bien définies, puisque quelque part, la page Wikipédia fait partie de notre cerveau. Une prothèse qu'on a greffée à un handicapé fait partie de son corps. Et une autre prothèse est la caméra, puisque de plus en plus, nous voyons des choses à travers une caméra. Et donc, plutôt que de penser que quand vous allez visiter les pyramides à Gizeh et que vous prenez une photo et que vous me l'envoyez sur mon téléphone, plutôt que d'imaginer que vous me transmettez une photo de quelque chose que vous avez vu, on pourrait tout à fait imaginer que votre téléphone n'est que mon œil déporté dans la poche de votre sac, dans votre poche ou dans votre sac, et que ça me permet, moi, de voir la pyramide de Gizeh en même temps que vous.
Et donc ça, est-ce qu'il faut aussi le souhaiter ou pas, je n'en sais rien. On pense à une série qui s'appelle Black Mirror et qui nous fait voir le monde à venir de manière catastrophique. Donc pour le meilleur ou pour le pire, on n'en sait rien en fait pour le moment.
On n'en sait rien. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelque chose, le fait de pouvoir déporter un œil et de pouvoir voir le monde entier. Pensez à ce que voyait un paysan au Moyen-Âge, il ne voyait rien du tout. Et donc là, nous avons cette possibilité, grâce à notre œil déporté, qu'est la caméra, de voir des milliers de choses. Et ça touche une question qui était importante au moment de la conquête spatiale. Donc là, ça nous ramène un petit peu en arrière. En gros, les nationalistes qui voulaient que les Américains ou les Russes arrivent les premiers sur la Lune, etc., disaient c'est important d'avoir un Américain sur la Lune. Et donc un Américain, ça ne veut pas dire un œil américain, ça veut dire un Américain avec ses yeux, ses bras, ses jambes, sa rate, son foie, son tube digestif, ses oreilles, etc. Et finalement, quel est l'intérêt? Si nous voulons savoir ce qui se passe sur la Lune, c'est beaucoup plus simple d'y envoyer une caméra. Et en fait, quand nous envoyons une caméra, il faut vraiment le voir comme nous envoyons notre œil déporté. Mais nous pouvons envoyer un œil sans envoyer une rate et un tube digestif en même temps, et c'est beaucoup plus confortable.
Autour de la question, comment nous métamorphosons-nous en Homo sapiens informaticus, à l'écoute de Nicolas Jarre sur RFI Mimourer. Voix du monde. Sur RFI, autour de la question de notre métamorphose en Homo sapiens informaticus, en compagnie du chercheur Gilles Dewec. Une métamorphose qui touche aussi les arts plastiques, pas seulement la musique, hein, comme l'électro que l'on entend. Je propose, Gilles Dewec, un petit détour par la Belle Vie Numérique, une exposition à la Fondation EDF qui célèbre l'alliance de l'art et du numérique. Notre reporter Charlie Dupio a rencontré Fabrice Bousteau, le commissaire de cette exposition et rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine.
C'est une des choses qui apparaît dans l'exposition, c'est qu'elles vont peut-être permettre aux artistes de devenir éternels. On présente effectivement une œuvre qui s'appelle Rembrandt 2016. C'est l'idée que on puisse analyser, numériser la création d'un artiste pour créer une sorte de logiciel de l'artiste et pour pouvoir perpétrer 500 ans après la disparition de l'artiste une nouvelle œuvre qui serait créé dans le style de l'artiste, dans la pensée de l'artiste, dans l'imaginaire, dans la créativité de l'artiste. Et de pouvoir donc créer un logiciel qui est capable de peindre comme Rembrandt. Donc c'est de rendre Rembrandt éternel. Ça laisse des possibilités complètement dingues. Et l'autre chose qui change la vie des artistes, c'est l'intelligence artificielle en compétition avec l'artiste. Est-ce que demain, dans les musées, on aura exposé de la même manière des artistes contemporains vivants et l'œuvre créée par des machines ? L'augmentation de l'artiste, puisque l'artiste va avoir son cerveau plus une intelligence artificielle à son service, au lieu qu'on se retrouve peut-être avec les ateliers de la Renaissance où un artiste avait une cinquantaine de collaborateurs et de peintres qui travaillaient pour lui. L'artiste de demain et d'aujourd'hui aura peut-être une cinquantaine de robots d'intelligence artificielle qui travailleront avec lui, qui prendront peut-être un jour sa place, mais peut-être aussi lui permettra de créer des formes nouvelles. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer des œuvres qui fonctionneraient que sous forme d'ondes, qui circulent dans l'espace et qui viennent vous transformer mentalement. Des œuvres invisibles et qui agiraient sur vous de la même manière qu'une peinture de Rothko ou Van Gogh agit par la magie picturale sur votre esprit. On sait qu'une œuvre d'art est active sur le cerveau. Eh bien, on peut tout à fait imaginer des œuvres invisibles et actives, animées par des intelligences artificielles que vous ne voyez pas, qui vous transforment.
Est-ce de la science-fiction ou de l'art numérique à venir ? Gilles Dewey, vous voulez réagir à cet éclairage de Fabrice Bousseau, donc commissaire de cette exposition « La belle vie numérique ».
Oui, j'aurais tendance à dire que un des aspects joyeux de la révolution informatique, c'est qu'elle stimule l'imagination de certains artistes un petit peu au-delà du délire. On a l'impression en entendant ce type de discours.
Mais surtout pour le moment, le numérique n'a pas véritablement engendré un média propre.
Il y a des œuvres d'art numériques qui sont tout à fait. Mon exemple préféré, c'est la fiction de fans. Par exemple, il y a eu plus de 300 000 pages de Harry Potter qui ont été écrites par des fans. Donc ça, c'est une espèce d'œuvre protéiforme, complètement délirante,
en réseau.
Ouais, donc c'est une transformation. Mais dans les fantasmes qui sont exprimés là, il y a deux idées moi qui me semblent intéressantes. La première, c'est celle d'immortalité. Et effectivement, je me suis vraiment intéressé à cette question de la manière dont l'informatique change notre vision de la mortalité, avec ce rêve transhumaniste de devenir immortel. Et j'ai pas essayé de dire oui, ils ont raison, ils ont tort. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était des informaticiens qui avaient cette idée d'immortalité et comment les informaticiens provoquaient ce désir d'immortalité, y compris chez d'autres personnes. Mais il y a aussi un aspect peut-être moins brillant dans cette extrapolation, qui est l'idée d'une compétition entre l'homme et la machine. Et
est-ce que nous allons être remplacés par les machines que nous avons construites?
Et moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment la mauvaise manière de penser les choses. La compétition, c'est la guerre, c'est le sport. Mais les métaphores guerrières et sportives ne nous expliquent jamais le développement des sciences et des techniques. Donc je ne vois pas du tout de compétition entre l'artiste et l'intelligence artificielle, etc.
L'homme et le robot, même au travail.
En fait, c'est cette manière de... Il n'y a pas plus de compétition entre l'homme et le robot quand la trompette est le trompettiste.
C'est un outil.
Je vois pas de...
Sauf qu'il faut que le trompettiste il soit sapiens, dans votre homo sapiens numérique.
Et peut-être même il faut que la trompette soit sapiens. Mais on n'imaginerait pas des musiciens nous expliquer qu'il y a une compétition entre la trompette et le trompettiste. Ça serait absurde. Non, l'idée qui était d'ailleurs présente dans ce reportage, c'était plutôt l'idée de coopération. Et la référence aux ateliers de la Renaissance est tout à fait pertinente.
Donc coopération machine. Et donc pour ça, il faut peut-être lire votre livre pour être un peu plus conscient et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans nos machines. Et pour apprendre à coopérer. Jolie fin. Merci Gilles Dewey d'être venu en direct partager avec nous dans toutes ces interrogations et ces pistes sur notre métamorphose en homo sapiens informaticus. Pour le meilleur ou pour le pire, on l'a compris, c'est à nous de choisir. En auditeur et en lecteur éclairé, je rappelle le titre du recueil de vos chroniques paru aux éditions du Pommier. Vivre, aimer, voter en ligne et autres chronique numérique. Signalons aussi Le temps des algorithmes, toujours aux éditions du Pommier, ouvrage coécrit avec Serge Habitboul et qui vient de recevoir le prix La Science, ce livre des Hauts-de-Seine 2018. Merci Gilles Dewey et vous revenez quand vous voulez.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, le prochain journal dans une trentaine de secondes.
RFI, les voix du monde.